18h49 en direct, Zoé Sfez, maintenant on parle des métiers de l'avenir.
Oui, dans cette nouvelle case culture numérique, je reçois aujourd'hui Clara Doina-Schmelk. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez là avec nous depuis le début, on entendait votre voix. Vous êtes journaliste notamment à Intégral, vous êtes spécialiste des médias, vous êtes philosophe de formation et vous êtes là parce que vous avez signé avec Isabelle Rouen un livre qui s'appelle Les métiers du futur, sous-titré Que feront nos enfants demain. C'est intéressant parce qu'Isabelle Rouen, c'est une femme qui a fondé un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent, qui est spécialisée dans la transformation digitale. Alors ce livre, je crois que vous l'avez écrit à partir d'un constat que font avec vous et qu'ont fait souvent divers instituts ou think tanks qui nous donnent depuis plusieurs années des chiffres qui ont l'air de se recouper. L'Institut du futur qui nous disait que d'ici 2030, les élèves qui sont aujourd'hui scolarisés, eh bien à 85% feront un métier qui n'existe pas encore. Il y a d'autres chiffres qui sortent, par exemple ceux de McKinsey qui nous dit qu'en 2022 la moitié des heures travaillées en France seraient automatisables et donc remplaçables, ce qui ne veut pas dire qu'ils seront remplacés. Et donc en fonction de avec ces espèces de moments de prédiction, vous essayez de comprendre ensemble toutes les deux comment ces métiers vont évoluer. Vous avez essayé de comprendre de quel type seraient les grands changements selon trois typologies. Alors, lesquelles sont-elles et pourquoi vous avez essayé de penser les choses comme ça?
Alors, on a essayé de penser les choses comme ça pour plutôt anticiper que prédire ou scénariser des vies sociales complètement bouleversées. Mmh. En fait, le marché de l'emploi, c'est sûr, est affecté par les nouvelles technologies numériques. Ça, c'est pas nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, la moitié des tâches vont être automatisables, mais pas les personnes. Mmh. Les personnes vont simplement être amenées à penser leur métier différemment. Et le risque aussi, c'est de ne pas penser en manière décomposée, en parlant par exemple de contenu, en parlant de production. Il ne faut pas non plus se transformer nous-mêmes en machine. La notion, c'est pour ça qu'on a appelé le livre « Les métiers du futur » et non pas « L'emploi du futur ».
D'ailleurs, vous ne parlez plus d'emploi, vous parlez d'employabilité, mais ça c'est un autre
sujet. Non, ça c'est autre chose. Mais on a bien parlé de métier pour que la notion, par exemple, on parle de l'enseignant. Je vais tout de suite embrayer. On a distingué une typologie de transition que connaissent les métiers. L'évolution, la révolution et l'innovation radicale.
Donc l'évolution, c'est des métiers qui auront changé. En tout cas, il faudra s'être formé ou avoir des compétences nouvelles. La révolution, c'est des métiers qui vont beaucoup changer, voire radicalement changer. Et l'innovation, c'est des métiers qui aujourd'hui n'existent pas du tout et qui existeront demain, c'est ça?
Alors, qui n'existent pas du tout et qui commencent à exister. Comme par exemple, on va y revenir à l'éducateur de robots. Donc on n'a pas inventé, hein. c'est pas un livre de fiction, ce n'est pas une dystopie. C'est simplement, on a essayé d'esquisser, de sonder l'existant en procédant à des témoignages de personnes très diversifiées et en traçant vraiment des métiers. Alors, les métiers de l'évolution, ce qu'on appelle les métiers de l'évolution, ce sont surtout les métiers de la transmission, comme l'enseignant ou le journaliste, qui vont avoir des compétences nouvelles liées au digital, au numérique, mais sans pour autant non plus décomposer leur métier, par exemple en producteur de contenu, accompagnant de l'élève d'un côté, et autre chose où il pourrait être neuropsychologue d'un côté. Non, ce sont simplement des métiers qui vont devoir s'ouvrir à un mode de relation différent à cause du numérique.
Voilà, donc le cœur du métier, disons, va rester. Alors, on peut prendre l'exemple du journaliste, on en parle très souvent. Vous postulez, il y a des fiches métiers, je dis juste que sur la forme du livre, vous prenez des exemples avec des fiches métiers, où vous essayez de détailler les compétences qu'il faudra avoir et ce sur quoi il faudra miser. Vous parlez de soft skills, en l'occurrence le journaliste de demain, on est dans un monde où effectivement, on l'a vu, aujourd'hui encore, le groupe Reworld continue de licencier et se sert déjà de l'intelligence artificielle pour faire de la rédaction pure. Journaliste de demain, si on parle d'un demain de dans 10 ans, quelles sont ses caractéristiques s'il a évolué?
Alors, il a évolué, je pense que ses caractéristiques sera de penser de manière moins individuelle, en groupe, dans sa rédaction, qui peut d'ailleurs se présenter sous la forme d'un archipel. Les journalistes ne seront pas forcément tous dans un même bureau autour de la table, de manière plus horizontale avec ses lecteurs. Et grâce à des outils du numérique, mais il ne doit pas devenir lui-même automatisable ou automatisé dans sa façon de produire les articles. Il doit y avoir une dimension humaine qui ne fera que s'affirmer.
Alors, on chroniquait ici même, il y a 2 semaines, un livre de Kai Fu Lee, qui est le plus gros investisseur dans l'intelligence artificielle en Chine, qui lui, donc, passe son livre à expliquer que le combat de l'intelligence artificielle a commencé et que c'est la Chine qui le gagnera et qu'en 2050, selon lui, plus de 80% des postes, effectivement, du travail, en tout cas, sera automatisable. Lui postule que les seuls métiers qui pourront survivre sont les métiers qui sont orientés, qui sont les métiers du soin. C'est-à-dire, c'est les métiers qui sont orientés de l'humain à l'humain. En l'occurrence, des professeurs, les soignants et d'autres métiers qui s'orienteront de plus en plus vers ce que lui appelle l'humain. Alors, il y a évidemment des biais et des limites à cette espèce de dystopie. Est-ce que vous, c'est ce que vous anticipez ou pas ?
Alors, sur le fond, je pense qu'il est absolument lucide, puisque le métier, justement, c'est ça, c'est la relation, c'est le travail est une médiation entre l'homme et lui-même. Donc, je pense qu'il a raison. Il veut signaler que certaines tâches, par exemple, caissiers, vont être automatisées, et les caissiers vont se transformer en conseillers de vente, ce qui est déjà le cas, ce qui existe déjà. Mais là, le danger de... Je pense que ce qu'il prévoit est en train de se produire déjà. Le danger, c'est la précarisation, dans cette période de transition, la précarisation de certains employés qui ne vont pas être orientés vers la recherche et le développement au service de l'humain, mais, ou le service hautement qualifié, mais à qui on va faire des tâches de travailleurs de plateforme. Il y en a 260 000 en France qui sont précaires. On essaye maintenant que les travailleurs des plateformes puissent bénéficier du code du travail, avoir une sécurité sociale, une retraite. Et ça va vraiment être l'enjeu. Là, c'est les métiers du futur, c'est dès aujourd'hui.
Ouais, et avec évidemment une question d'organisation sociale.
Qui est pas en fait un futur à deux vitesses.
C'est ça. Et un futur avec une idée, enfin avec une dystopie, ou une dystopie pas du tout. Il y a un déséquilibre entre les salariés et les non-salariés.
Alors les salariés et les non-salariés, et au contraire les freelances, on va dire, qui pourront choisir leur métier, qui auront la chance de pouvoir se former tout au long de leur vie, qui sauront un peu sonder les nouvelles compétences à avoir et qui vont pouvoir anticiper, et les autres qui seront moins renseignés, qui seront isolés sur le plan géographique, mais aussi sur le plan académique, et qui vont devoir être victimes de cette précarité et être employés par Uber, Deliveroo, à leur risque.
Mais alors, je fais une petite digression, on reviendra à la fin sur les métiers dits de l'innovation. Aujourd'hui, sur la formation en France, vous le dites, alors il n'est plus question aujourd'hui d'appréhender ou de souhaiter l'emploi à vie, il faut souhaiter l'employabilité à vie, c'est-à-dire qu'il faut continuer à apprendre en permanence. Comment est-ce que vous regardez la manière dont en France on est paré ou pas face à ces évolutions, aussi bien au niveau du recrutement? On sait qu'on a une grande religion du diplôme en France, et on a plus, quand on engage quelqu'un en général, on l'engage sur un diplôme moins que sur des compétences, comme c'est le cas par exemple chez les anglo-saxons. Et du point de vue justement de ces grandes réformes de la formation, est-ce que vous estimez que les besoins, en tout cas comment est-ce qu'on peut se former, se garantir l'idée qu'on pourra continuer à se former?
Ce qui est bien en France, là on parle des pays anglo-saxons, en France on a quand même quelque chose qui s'appelle l'instruction publique, et qui est en fait une instruction qui nous permet d'être employable à vie sans être employé de telle ou telle entreprise pendant 5 ans et puis après jeté. L'instruction publique, c'est un socle commun qui n'est pas justement des compétences limitées, mais qui nous permet d'avoir toute notre vie des ressources pour développer des nouvelles compétences. Et c'est pour ça qu'il faut absolument garder cette spécificité française d'instruction publique.
Mais puis il faut après, changer sur le recrutement.
Et après, sur le recrutement, je trouve qu'il y a eu des progrès quand même. Maintenant, dans n'importe quel entretien d'embauche, on vous demande oui vos diplômes pour voir à peu près l'évolution que vous avez suivie, mais aussi vos compétences, quelle est votre expérience. Ah bon, vous avez travaillé là, c'est intéressant. Je pense que les mentalités évoluent, et le diplôme, c'est seulement un aspect du recrutement. La formation tout au long de la vie, elle commence à se faire, notamment avec Pôle emploi, avec des instituts qui forment les adultes. Là, on a remarqué qu'il y a de plus en plus d'adultes qui se forment tout au long de la vie. Donc je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens.
Alors, parmi les deuxièmes types de métiers que vous listez, vous parlez de la révolution. Là, vous faites un long chapitre sur le management, qui selon vous va beaucoup changer. Et puis j'aimerais peut-être que vous nous parliez de ces métiers de demain, qui effectivement sont très poétiques dans les noms que vous leur donnez, hacker éthique ou éducateur de robots. Alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le recrutement et sur ces métiers de demain?
Alors, sur l'éducateur de robots, alors ça, c'est très poétique, mais ça existe déjà. En fait, on s'est aperçu que les objets techniques ne sont pas de simples automates.
Ça,
c'est depuis les années 50. Donc, les robots, il suffit pas de les programmer.
Alors,
il faut aussi, par exemple, pour qu'ils règlent des problèmes difficiles, comme par exemple détecter des maladies, ou simplement devenir des algorithmes de recommandation pour l'information ultra personnalisée, et qui suivent vraiment l'évolution de chaque lecteur. Par exemple, là je parle d'un journal, d'un média en ligne par exemple. Le robot, justement, on va lui apprendre à conseiller, donc à presque avoir des qualités humaines. Donc ça, c'est l'éducateur de robots. Comment on l'éduque? Avec des données et des boucles de rétroaction. Donc comme le robot est un peu idiot, il n'a pas d'intelligence, contrairement à l'expression intelligence artificielle est assez
ce n'est pas juste.
Prête à confusion. Ouais.
Alors je pose la question autrement, on sait que l'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle essentiellement de deep learning, donc c'est des logiciels d'apprentissage profond. Les algorithmes ne suffisent pas, il faudra toujours qu'on ait un humain derrière, ça c'est la thèse d'Antonio Casilli.
Oui, il faut mettre un humain derrière chaque robot. Et un robot derrière chaque robot qui éduquerait les robots.
Alors peut-être pour conclure ça avec vous, Clara Doenaschneck, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être ce que vous préconisez d'investir, c'est-à-dire ce que vous appelez vous les soft skills? De quoi s'agit-il?
Alors les soft skills, c'est ce qu'on appelle depuis des siècles, à mon avis, le caractère. C'est-à-dire qu'on apprenne aux enfants qui vont devoir toute leur vie évoluer, se changer, leur apprendre des choses beaucoup plus... Bah, c'est ces montagnes, en fait, hein, tout simplement.
Une éducation, on revient à Montaigne.
C'est une éducation complète. Et on dit le mot compétence, c'est parce que c'est une optique de management, mais en fait, il est réducteur. Il faudrait parler plutôt d'épanouissement personnel et surtout de ressources. Toujours pouvoir se dire, tiens, bon, bah là, ce métier, il va plus exister. Quelles sont mes ressources personnelles dans toute l'expérience que j'ai eue dans ma vie, professionnelle,
le fait d'être sympathique, la musique, peut-être une ressource, c'est ça que vous
le fait d'être sociable, tout ce qui est humain va pouvoir se régénérer, en fait.
Merci beaucoup Clara Doenaschneck, vous êtes journaliste, je rappelle que vous signez ce livre Les métiers du futur qui est paru aux éditions First Edition, c'est avec Isabelle Rouen qui est donc elle-même fondatrice d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent. On vous invite à l'acheter parce qu'il y a de jolis fiches métiers avec de bonnes idées dedans.
Merci.